L'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, elle permettrait le retour de deux astronautes américains coincés dans l'espace depuis 9 mois.
Merci Cécile Mérieux, on vous retrouve à 10h.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
En présence de Christine Pedotti, écrivain journaliste, et de Jean-Benoît Poul, agrégé d'histoire normalien qui enseigne à l'université en Seine-Saint-Denis, qui collabore au Grand Continent. Alors justement, tenez, c'est un message de Marie-Clotilde qui nous écrit de la Manche. Alors vous n'êtes pas dans la Manche, Christine, vous êtes en Seine-Maritime, je crois.
Oui, c'est ça.
Elle nous dit, dans la Manche, où il ne reste que 15 paroisses, il y avait de ces jeunes. Alors je suppose donc de ces jeunes qui affichaient donc les cendres sur le front à Valognes, à Bricbec, et nous saluons d'ailleurs les personnes qui nous écoutent dans cette belle région du Cotentin. Vous vouliez reprendre, Jean-Benoît, sur le diocèse de Nîmes.
Oui, un seul chiffre pour un diocèse qui, en plus, n'est même pas une terre historiquement très, très fervente comme la Manche. Dans le diocèse de Nîmes, donc, 100 catéchumènes recevront le baptême. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais c'est quand même un doublement du chiffre par rapport à l'année précédente, qui était lui-même, je crois, en augmentation. Ces chiffres, voilà, sont issus.
Et c'est une tendance qu'on observe un peu partout, d'ailleurs.
On peut aussi dire, si on est pessimiste, qu'ils se font baptiser parce qu'ils rattrapent en fait ceux qui n'ont pas été baptisés enfants. C'est vrai, c'est indéniable. Mais voilà, je parlerai moi de frémissement. Je ne veux pas aller au-delà. Voilà, ça serait, faut pas dire trop vite. Ça y est, c'est la reconquête ou j'en sais rien. Mais c'est une sorte, c'est un frémissement qui est particulièrement intéressant d'observer chez les jeunes. Et donc chez les jeunes, y compris ceux qui ont Instagram et qui sont demandeurs. Hein, pour en terminer là. J'allais dire d'orthopraxie, hein, le catholicisme. On a eu, peut-être pendant les décennies précédentes, un rapport très intellectualisé au christianisme, et de fait, on a approfondi la foi, la connaissance de la Bible, enfin, toutes choses qui sont fondamentales. Mais peut-être a-t-on oublié, justement, cette demande aussi d'une religion qui passe par les gestes, qui passe par le corps, qui passe par des signes tangibles et sensibles de la vie de tous les jours, qui soit en fait une ritualité qui rassure. Voilà. Bon, c'est ce que disent d'ailleurs les sociologues du religieux. Ouais.
Et je suis une ritualité qui rassure, vous êtes d'accord, Christine Pédéthier?
Ah oui, 100%. Moi, je pense que le rite est humanisant. Et dans le catholicisme, ce que j'aime dans le catholicisme, c'est que c'est une religion qui met en jeu le corps. Dans les sacrements, dans la façon dont nous célébrons les rites, hein, je veux dire, nous marchons ensemble en procession, nous chantons ensemble, nous nous asseyons en même temps, nous nous levons en même temps, nous nous agenouillons, nous recevons de l'eau sur la tête au baptême, nous mangeons dans l'Eucharistie, les églises sont faites pour que nous éprouvions le dedans et le dehors avec le jeu de la lumière, des vitraux, la musique est importante, l'encens flatte nos narines, enfin, je veux dire, tous nos sens sont en éveil.
Il y a toute une poésie.
C'est une religion de la sensualité du corps. C'est une religion charnelle. Et ça, c'est les rites. Il ne faut surtout pas les abandonner. C'est extrêmement précieux.
Pourtant, elle n'a pas toujours été perçue comme telle, où il y a un discours sur elle qui tend à dire que c'est l'ennemi du corps, etc.
Mais bien sûr, mais quand les rites deviennent vides, quand ils sonnent creux, c'est terrible. En fait, il y a eu une forme de... Le ritualisme est l'ennemi du rite. Hein, c'est quand en fait le rite, on le fait pour lui-même, alors qu'en fait il est la façon de mouvoir l'être, l'intimité de l'être.
Ces jeunes qui demandent du rite, ça vous surprend?
Non, ça me surprend pas, ça me rassure.
Bon, on pourrait croire aussi, peut-être à une certaine période, on s'est cru un peu devoir sortir du rite ou du ritualisme. Vous voyez, de se libérer
ça. Je pense qu'on s'est
perçu comme une routine sociale.
Oui, mais je pense que des générations qui sont plutôt celles de mes parents, hein, c'est-à-dire qui sont, mon père a 93 ans, hein, pour vous donner une idée, sont des gens qui ont été élevés dans une religion dans laquelle, d'une certaine façon, il n'y avait plus que le rite et c'était très desséchant. Moi, je sais que mes parents, ils ont retrouvé un plaisir de vivre dans le catholicisme avec Vatican II. Vraiment, ils s'en sont réjouis parce que tout à coup, ce qu'ils croyaient, ils pouvaient le vivre pleinement, et etc. Mais en même temps, il y a des tas d'endroits dans lesquels on a cru qu'il fallait retirer le rite pour avoir plus de foi. Et c'est complètement absurde. Moi, il y a une image que je prends souvent parce que je l'aime beaucoup. Dans l'évangile, on raconte cette femme qui brise un flacon d'albâtre sur les pieds de Jésus. Il y a la scène dans Luc et puis il y a la scène à Béthanie dans trois des évangiles. Et d'une certaine façon, le rite, la forme religieuse, le style religieux, c'est le flacon qui transporte le parfum. Mais si vous n'avez pas de flacon, vous ne pouvez pas transporter le parfum. Il y a une condition, c'est qu'il faut le briser sur les pieds de Jésus.
Pour que le rite ait tout son sens.
Mais bien sûr.
Jean-Benoît Poul, Christine Pelletier, je vous propose à présent de parler dans le cadre d'un dossier que nous suivons évidemment, c'est celui de la fin de vie, des propositions de loi sur les soins palliatifs à mourir qui ont été déposées à l'Assemblée et qui donc seront examinées lors des semaines des 12 et 19 mai. On voulait mettre ce sujet évidemment au menu de nos discussions parce que on s'intéresse à la manière dont ces textes vont évoluer, des textes qui se conjuguent donc au pluriel puisqu'il y aura bien donc deux textes sur la fin de vie qui seront déposés et qui seront votés en même temps. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'esquisser un peu une perspective pour cette échéance-là, ce que l'on peut en attendre et puis ce que l'on peut craindre aussi, Jean-Benoît Poul?
Oui, on voit clairement, à partir de ces deux textes présentés, qu'il s'agit d'un compromis très net entre les positions, disons, du Premier ministre François Bayrou, qui était en faveur de deux textes. Hein. C'est lui d'ailleurs qui les a tronçonnés avec un texte, pour le dire vite, sur les soins palliatifs et un autre texte sur ce qui se dirige en tout cas vers l'aide à mourir. Donc entre d'une part François Bayrou et d'autre part le rapporteur parlementaire du deuxième de ces textes, donc Monsieur Falorni, qui lui est plutôt, pour le dire vite, en faveur de l'aide à mourir, qui est plutôt, disons, en faveur d'une évolution de la loi et d'une évolution dans le sens en fait auquel elle va depuis quelques années, qui est donner de plus en plus de pouvoir aux médecins en fin de vie, avec évidemment le consentement éclairé du patient, etc., mais quand même en faveur d'un arrêt des soins qui équivaut, ces cas-là, à la mort. Hein, soyons clairs, c'est un domaine où on fait de manière compréhensive beaucoup d'euphémismes, mais ça équivaut quand même à ça. Et donc, je crois que c'était une habileté de M. Bayrou, parce que les soins palliatifs ne vont poser aucun problème. Tout le monde est, j'espère, pour le renforcement des soins palliatifs. À l'Assemblée, il y aura une très nette majorité. C'est une question de moyens, c'est une question effectivement d'ailleurs cruciale de renforcer l'accompagnement de la fin de vie. Et là, selon toute vraisemblance, une grande majorité va se déclarer. Pour le deuxième texte, sur lequel il y a liberté de vote, et on est dans le domaine, bien sûr, de l'intime conviction des députés, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et donc d'ailleurs plus intéressant.
Ça laisse plus de marge de manœuvre.
Ça laisse plus de marge de manœuvre et on va voir, même si sondage après sondage, on sait que les Français en fait sont massivement en faveur de cette aide à mourir. Ça, il ne faut pas le dissimuler. Il y a une sorte de consensus social.
Ça dépend aussi de la question posée.
Exactement. Qu'à titre personnel, je déplore d'ailleurs, mais qui est là en faveur donc de cette aide à mourir. Et après, je dirais, bon, 100% des répondants sont des bien portants. Des relativement bien portants qui s'imaginent pas. Moi, je trouve qu'il faut aussi écouter des gens comme notre actuelle ministre, Madame Astrid Panosyan-Bouvet, qui est veuve d'un intellectuel qui avait eu la maladie de Charcot, hein, Laurent Bouvet, quelqu'un de tout à fait estimable, qui a confié d'ailleurs à la Croix que son regard avait énormément évolué sur cette question, alors que voilà, c'est pas du tout quelqu'un d'une famille confessante. Dans le sens d'une très grande prudence, d'une très grande sanctuarisation en fait de ces derniers instants, qui n'était pas du tout, voilà, c'est pas quelqu'un du tout de doloriste, au contraire, c'est une famille en plus de tradition très laïque, mais une sens d'une très grande prudence et voilà, quelque chose qui est d'ailleurs partagé par la plupart de la profession médicale. Moi, je trouve qu'il faut écouter les soignants, il faut écouter la plupart des gens qui sont dans les soins palliatifs, dans la profession médicale, qui sont, pour le dire vite, beaucoup plus prudents que M. Falorni.
On peut espérer, Christine Pelletier, que cette prudence soit présente lors des débats à l'Assemblée.
Moi, je pense que c'est des questions sur lesquelles il faut approcher avec, d'une certaine façon, crainte et tremblement. La prudence est de règles. Et je dirais en même temps, les questions sont lourdes, elles sont morales, elles sont intéressantes, et on ne peut pas les trancher facilement dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que prétendre que, au nom de la dignité, il faudrait faire de l'aide à mourir, c'est une absurdité, parce qu'il y a Il n'y a jamais de façon indigne de mourir. C'est, dès l'instant où on est humain, on ne meurt pas de façon indigne. En revanche, on peut mourir seul. Et je pense que moi, je dirais, personne ne devrait mourir sans quelqu'un qui lui tienne la main. C'est la première chose. Et donc, il y a ça, effectivement, mais on ne peut pas non plus. Alors ça, c'est la croyante qui se révolte. Dire que la vie doit aller à son terme naturel, comme si Dieu était une sorte de parc qui coupe les fils et que cette décision ne pouvait pas appartenir aux humains. Je pense qu'aujourd'hui, dans le développement du soin, il y a un moment où en fait les soignants, les humains, l'entourage doivent prendre des décisions. Et donc il faut faire des lois pour contenir la décision, pour la régler, la rendre, l'humaniser justement, pour que ce ne soit pas une sorte de zone d'ombre, de zone grise, dans laquelle tous les excès peuvent avoir lieu. Donc je pense que c'est bien d'écrire une loi, que c'est bien de réfléchir longtemps, que c'est bien de dire qu'il y a une question morale très forte. Et puis moi, je veux dire, je le redis, la règle, c'est personne ne meurt sans quelqu'un qui lui tient la main.
Mais ça devrait faire l'objet d'un questionnement prioritaire.
Oui.
Mais comment, pas forcément peut-être d'un texte de loi, mais si on se donnait cet objectif-là, oui, ça changerait sans doute la face du monde. Mais
c'est très compliqué, parce que même par exemple dans la façon dont les soignants se comportent. Moi, il se trouve que je l'ai vécu il y a assez peu de temps. J'ai accompagné ma mère dans 3 jours d'agonie. Et de toute évidence, les soignants n'ont pas compris que je veuille rester la nuit. Parce que moi, je ne voulais pas que maman meure alors qu'elle avait perdu conscience. Je ne voulais pas qu'elle meure sans personne à ses côtés. Je voulais être là. Et de toute évidence, cette volonté que j'avais d'être près d'elle a été étonnée les soignants.
Et ça vous a étonné ?
Bah oui, parce que ça me semblait être la moindre des choses de l'humanité. Ça me semblait être la moindre des choses de l'humanité. Et c'est vraiment une chose dont je m'étais fait la promesse à moi-même. C'est pas que je l'avais promis à ma mère. Je veux dire, j'estime toujours qu'un être humain doit pas mourir tout seul.
Mais ça veut dire qu'on peut facilement glisser dans un système inhumain sans même s'en apercevoir.
Oui, tout à fait, parce qu'on m'a dit, mais vous inquiétez pas, la morphine, il se passe rien, elle sent rien, elle... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que, en plus, le corps et l'esprit, c'est des choses pas si séparées que ça. Et qu'on me dise qu'elle était sous morphine, c'est vrai qu'elle ne réagissait plus à la sollicitation de l'extérieur. Est-ce que pour autant, ce corps qui se battait, parce qu'une agonie, hein, ça veut dire le combat, ce corps qui se battait pour ses derniers instants de vie, je veux dire, il était encore là. Il y avait... Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un? C'est très mystérieux. Mais en tous les cas, moi, je ne tenais pas à l'abandonner, ni ce quelqu'un qui était ma mère, ni ce corps qui se battait.
Vous en êtes-vous aperçu quand elle a rendu son dernier souffle? Parce que l'écosystème médical des machines peuvent perturber aussi la perception que l'on a.
C'est une chose très difficile. Il se trouve que elle avait une respiration extrêmement brisée. Elle respirait 4 fois par minute. C'était épouvantable. On se disait qu'elle n'allait pas reprendre son souffle. Et je pense que je me suis assoupie au moment où elle a cessé de respirer. Voilà, mais je n'ai pas de regret. Je veux dire, ce qui m'a réveillée, c'est que je n'ai plus, j'ai sursauté parce que tout d'un coup, j'ai plus entendu le fait qu'elle respire. C'est vrai que le contact avec la mort, c'est une chose qu'on n'a pas eu. La plupart du temps, les gens meurent à l'hôpital avec une très très grande distance.
Hein. Et on réfléchit peu à cette distance.
Oui,
il faudrait réfléchir à cette distance pour savoir comment. Avec la main, avec la présence humaine, comment on peut combler cette distance?
Combler cette distance, tout à fait. Ça, c'est une vraie question sur laquelle j'ai une chose. Moi, je vais vous dire, je vais faire une confidence à cette heure. Moi, j'ai eu la chance, mon mari est mort dans mes bras. Il est mort d'une crise cardiaque ou d'un AVC de façon très brutale, dans mes bras. J'ai su tout d'un coup qu'il n'était plus là. Et c'est une expérience absolument décisive de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que la mort. Et je ne regrette pas que mon corps à moi se souvienne de cette épreuve-là et de cette expérience incroyable.
Jean-Benoît Poul, Christine Pedetti a aussi parlé du mot agonie qu'on entend assez peu, mais qui est important. L'agonie, c'est aussi un moment de la vie qu'on ne peut pas voler non plus.
Évidemment, oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais vous remercier hein, pour votre témoignage qui est plus que touchant. Hein, qui, quelque, enfin voilà, j'ai peu de choses d'ailleurs à ajouter en tant que tel à votre expérience. Mais sur l'instant de la mort, en fait, je trouve, pour faire un pont d'ailleurs avec ce dont on parlait auparavant, que là encore, il était ritualisé. La mort était au cœur de la vie, elle était sociale, elle était dans les villages, hein, vous savez, il y avait des bougies, des cierges. Hein, quand la vieille personne entrait en agonie, et ben en fait, toute la famille était là. Alors, faut pas non plus idéaliser hein, la France de nos villages et nos clochers, mais je trouve qu'il y avait toujours derrière, quand on creusait, une signification profonde et une signification chrétienne de tout cela. C'est ce que voilà. C'est aussi évidemment c'est dur, c'est terrible. Hein, c'est
des moments, vous pouvez parer les maisons de noir aussi.
Voilà la signification, comment dire, le corps-esprit, ben, c'est un combat hein, évidemment. Ça s'inverse presque à un moment. Et pourtant, il y a quelque chose, voilà, comme une entrée, quelque chose qui, quand même dans ses duretés, dans ses aspérités, ben, se trouve en fait profondément significative, se trouve profondément, et qui aide les gens. D'ailleurs, vous dites l'attention auprès du corps, elle ne cesse pas avec la mort. C'est ça qui disent les anthropologues, ce qui d'ailleurs nous humanise, c'est l'attention au corps après même la mort. C'est le fait que voilà l'accompagnement de la dépouille dont on sent bien, dont on sait bien au fond intimement qu'elle est infiniment plus qu'une dépouille. Et alors, je pense que voilà, même quand on n'est pas chrétien, il y a quelque chose dans ces gestes rituels funéraires d'une espérance qui se dit et qui est infiniment précieuse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas voler la mort aux gens, et que dans la période du Covid, hein, c'est ce que disait Guillaume Cuchet, il y a énormément de personnes qui ont très très mal vécu ces instants-là, parce que à cause de mesures sanitaires compréhensibles à leur principe évidemment, mais le rapport s'est totalement distancié en fait entre les familles, hein, comme ce que vous avez fait, et les mourants, les agonisants, alors que ces moments-là en fait ne peuvent pas être aseptisés. On peut certes, tout ce que peut faire le législateur d'une main tremblante, c'est les encadrer. On peut les encadrer, mais on ne pourra jamais les définir.
Voilà. Et ce sont des moments si précieux, parce qu'il peut se passer tant de choses lorsque quelqu'un en vient justement à se rapprocher de la mort dans un cadre familial. On peut résoudre, partir sans les trois R, hein, comme on dit, hein, ni remords, ni regrets, ni rancune. Et souvent, ça se joue dans ces moments-là, peut-on le présumer. On annonçait tout à l'heure dans notre menu qu'on allait parler aussi de Disney, et il nous reste quelques minutes justement pour aborder cette question-là. Disney, c'est l'image bien sûr du divertissement à l'américaine, et depuis l'arrivée de Donald Trump, on revient sur un terrain plus politique, plus sociétal aussi. On assiste à un changement de braquet, pourrait-on dire, du côté de cette entreprise multinationale qui irrigue nos imaginaires. La série Gagné ou perdu, créée par Disney et Pixar pour la plateforme Disney+, a présenté un personnage ouvertement chrétien, une chose qui, selon les observateurs, je ne l'ai pas vérifié, mais une chose qui ne s'est pas produite depuis au moins 20 ans, peut-on lire. La série est disponible sur Disney+ depuis le 19 février, et elle suit une équipe de baseball, et il y a l'un des personnages qui s'appelle Laurie, une jeune fille qui récite le Notre Père avant une séquence que je n'ai pas regardée, mais en tout cas, ça a été observé par les spécialistes des médias. Alors, peut-on l'interpréter comme une forme de déwokisation de l'entertainment à l'américaine ? C'est vrai que Donald Trump, Christine Pelletti, avait signé un décret hein, là-dessus, hein, sur le genre.
Oui, alors qui a priori ne vise que ce sur quoi Donald Trump a la main, c'est-à-dire l'administration. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que Disney, qui avait été très loin dans ses politiques DEI, comme on dit aujourd'hui, hein, diversité, inclusion, etc., égalité, était en train de revenir dessus parce qu'il s'était aperçu qu'il perdait quand même beaucoup de spectateurs. Quand on regarde les courbes d'intérêt pour les productions de Disney, l'excès de ce qu'on appelle le wokisme avait fait perdre beaucoup d'intérêt aux productions de Disney.
Par exemple, une Blanche-Neige qui n'est pas blanche, etc.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Une petite sirène qui était je ne sais plus quoi. Enfin, bon, bref. Il y avait vraiment eu des choses très, très excessives et qui, de ce côté-ci de l'Atlantique, nous semblaient quand même totalement loufoques. On se disait, ils sont quand même dingos, ces Américains. Ils sont dingos dans un sens, ils sont dingos dans l'autre, hein, visiblement. Louis, je vous ai fait cette observation hier soir quand vous m'avez posé par un petit message ce sujet. Ça m'a intrigué cette affaire en me disant, mais est-ce que mettre une jeune chrétienne, c'est une autre forme de politique de diversité? Est-ce que finalement, c'est si minoritaire qu'on doive s'en étonner? Voilà, tout
est-ce
ça
que
m'a
c'est
semblé.
Pareil, finalement.
Oui, c'est ça. Est-ce que avoir une jeune fille ou une jeune homme, je crois qu'il y avait l'idée d'un transgenre, parce que c'est une grande question aux États-Unis, transgenre ou chrétien, on mettrait un signe égal dans le thème. Nous sommes ouverts à toutes les particularités. Je trouve ça assez désolant, finalement.
Finalement, c'est epsilon, et puis on change simplement le paquet, l'emballage.
Oui, c'est ça. Bon, voilà, je trouve que c'est pas très... Enfin, la culture, c'est autre chose. Voilà ce que je vais dire. La culture, c'est autre chose. La culture, c'est pas essayer de suivre ces espèces de choses. La culture, ça doit toujours nous étonner, nous émoustiller, parfois nous choquer. C'est ça, la culture. La culture, ça nous fait sortir de notre zone de confort.
Alors là, c'est une vraie réflexion hein, que mène Christine. Hein. La culture, c'est autre chose que ce divertissement. Et en tout cas, quels que soient les choix que fait Disney aussi sur la manière aussi d'influencer les foules, parce que des millions de gens regardent.
Moi, je dirais que là où l'affaire devient un petit peu délicate, c'est que je crois que c'est une série destinée à la jeunesse. Hein. Enfin, comme à peu près tout ce que fait Disney, d'ailleurs. Et là, évidemment... On voit bien que c'est un terrain de lutte, ce que d'ailleurs je n'aime pas, enfin, c'est l'éducation, ça ne devrait pas être ça, mais on voit que c'est un terrain de lutte d'influence, et que de même que, voilà, on a mis des personnages qui représentent les minorités, pourquoi pas, mais à destination spécialement des enfants, il y a l'idée, voilà, qu'il faut que ça, une sorte de représentation... géométrique ou arithmétique parfaite de ce qui est puéril, ce qui est justement enfantin, mais dans le mauvais sens du terme. Après, oui, sur le fait que mettre un personnage chrétien, bon, moi j'aime bien, alors c'est pas des Disney, mais j'aime bien les vieux films des années 50, par exemple, hein, quand le cadre était encore chrétien, et justement, on voit, il y a plein des tas de films hein, américains, enfin anglo-saxons ou français, où le cadre est de fait chrétien, il y a des références, des symboles au christianisme, et pour autant, ce ne sont pas tous des films d'édification, ce ne sont pas des films pieux, il y en a même qui sont, voilà, pas du tout, où l'Église n'a pas forcément le beau rôle. Mais on voit que le cadre était chrétien, et il y a toujours en fait un peu un problème quand il s'agit justement de représenter une minorité qui n'est pas, quoi qu'on en dise, hein, une minorité comme une autre, parce qu'elle est associée à ancienne majorité oppressive. Et c'est ça le problème. Et alors là, il faudrait faire des nuances, dont je pense, hein, beaucoup sont incapables, qui est le fait, par exemple, une minorité opprimée, aux États-Unis, bah, le catholicisme l'a été. Par rapport à la culture protestante, à la fameuse culture WASP majoritaire, le catholicisme, pardon, c'est longtemps pensé et vécu comme une minorité. Mais là, évidemment, aujourd'hui, on n'est plus capable, en tout cas, quand voilà, on réfléchit à ces questions, de faire la part des choses. Et en fait, il y a cette idée que voilà, il faut représenter chaque minorité, il faut se compter. En revanche, l'ancienne majorité, comme c'est de la majorité, celle qui a été oppressive, bah, au contraire, comme disent les jeunes, on la calcule plus, on la calcule pas. Et là, effectivement, représenter un personnage chrétien, c'est des gros sabots. C'est des gros sabots, mais c'est une manière aussi de rompre avec cette logique qui était déjà un peu puérile, enfantine.
Il faudrait sortir en fait un petit peu de la logique majorité-minorité, déjà peut-être. Et puis c'est vrai que ce que vous disiez, Christine, à un moment donné, c'est que il y a toujours l'idée de représenter une attitude un peu qu'on revendique. Si on est dans une minorité, il faut que je revendique quelque chose. Et donc ça prend tout de suite une coloration un petit peu idéologique, politique, qui est un petit peu, comme vous dites, avec les gros sabots, qui est un petit peu lourde. Et ça, ce n'est pas forcément la culture telle que nous, on a pu s'y habituer. Je ne sais pas si je trahis votre pensée.
Non, tout à fait. C'est vraiment ça qui...
On n'a pas besoin de signaux idéologiques.
On n'a pas besoin de signaux, voilà, c'est ça. Il faut toujours aller regarder dans l'histoire. Hein, les lettres, le nom m'échappe, mais je pense tout au début du christianisme, sur la façon dont les chrétiens vivent à Rome... je me souviens plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Et précise que justement les chrétiens vivent comme tout le monde, qui ne se distinguent en rien Sinon, dans une façon de vivre avec, avec les autres de façon plus, je dirais, attentive, on va dire plus charitable, pour le dire vite, mais que rien ne les distingue dans la, dans la cité. Ils sont habillés comme tout le monde, ils sont... voilà.
Cocher une case, ça n'est pas leur rendre service.
Mais je pense que c'est pas le... c'est pour ça que je reviens à mon idée de sel de la terre. Voilà, je veux dire... les chrétiens, ils sont là pour donner de la saveur à la vie, pour rappeler que la vie a de la saveur, que la vie est bonne, belle, et qu'ils pensent que à la fin, in fine, au bout du compte, c'est pas le moche et le mal qui a le dessus.
C'est ça qui compte finalement. Et puis l'idée, on va terminer peut-être là-dessus, c'est que justement l'idée de minorité, ça vous enferme sur un monde clos, alors que le christianisme en soi est ouvert sur l'extérieur, forcément est toujours tourné vers l'extérieur. Il y a cette idée aussi peut-être, la case, c'est vraiment quelque chose de dangereux, le quota, enfin à mon sens, hein, mais si j'essaie de refléter un petit peu vos positions. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Christine Pedotti qui s'occupe de témoignages chrétiens, elle en est directrice. Écrivain journaliste qui publie Autopsie d'un système aux éditions Albin Michel. Et puis merci à Jean-Benoît Poule, normalien agrégé d'histoire, spécialiste de l'actualité de l'Église, qui collabore au Grand Continent. C'est un site internet d'analyse de l'actualité, qui est aussi donc chercheur et qui enseigne à l'université. Le grand débat, le débat du jour, vous l'appelez comme vous voulez, vous êtes fidèle et vous pouvez toujours y participer à direct@rcf.fr et @radionotredame.com tous les matins entre 9h et 10h. Merci à tous et bonjour à Melchior Gormand à présent qui va prendre le relais. Bonjour Melchior.
Eh oui, tout à fait. Bonjour Louis Dauphren, bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, comme chaque jour d'ailleurs, de 10h à midi, c'est Je pense donc j'agis. Dans un instant avec Madeleine Vatel, on va revenir sur des images qui ont fait le tour du monde. Vous savez, cet échange à la Maison Blanche il y a quelques semaines entre Volodymyr Zelensky et le président Donald Trump. On parle de l'humiliation dans un instant. Est-ce qu'on a été témoin d'un moment historique? Est-ce que l'humiliation est une arme de négociation? Vous avez la parole pour en discuter avec nous dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. A tout de suite.